Cédric, t'es, à travers le design sprint, t'es aussi un facilitateur. Comment t'aimes ça animer des design sprints?
Ah, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde parce que autant je répète une façon de faire que c'est jamais le même sujet. Je rencontre les gens, je vois des gens passer de point d'interrogation dans le visage à émerveillement. Je fais un parallèle. Avant, j'enseignais la sculpture sur bois. Les gens ne savaient pas sculpter et ils finissent une formation, ils savent sculpter. C'est la même chose avec les design sprints. Maintenant, c'est OK, ce n'est plus obscur la façon dont on crée, on innove. Moi, c'est l'émerveillement des gens que ça crée de participer à un parcours quand si peu de temps, on passe de « on se posait tellement de questions » à « nous avons ça entre les mains ». Et oui, c'est imparfait, mais là, moi, je vais le rendre parfait après. Pas moi, mais oui, l'équipe va le rendre parfait après. Fait que c'est de voir ça émerger qui est pour moi le plus grand cadeau d'être facilitateur d'atelier.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 143 du podcast « Innovation, agilité et excellence ». Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Mélanger l'agilité et le design thinking, pourquoi pas? Il s'agit d'abord et avant tout de chercher dans un collectif les éléments de solution pour en concevoir une à laquelle aucun individu n'aurait pensé tout seul. Pour mieux comprendre cette méthode, qui est utilisée par de grands noms du numérique et ses liens avec l'innovation, nous nous tournons vers Cédric Martineau pour en explorer les tenants et aboutissants. Cédric partage avec nous ses connaissances approfondies et ses expériences pratiques, offrant une perspective unique sur cette méthodologie. On explore avec lui ce qu'est le design sprint, ses impacts, les conditions de succès, les liens avec l'innovation et bien sûr l'influence de l'intelligence artificielle. Entrepreneur polyvalent, Cédric Martineau cumule plus de 20 ans d'expérience en design industriel et en gestion de projets créatifs. Ses compétences vont de l'ébénisterie au design d'espace jusqu'à la gestion des opérations, des disciplines qu'il a également enseignées. Cette diversité a enrichi son expertise en gestion de la créativité au sein des entreprises. Actuellement consultant chez Carverino Conseil, il se spécialise dans l'enseignement et l'application du design thinking, la résolution de problèmes complexes et la facilitation de UX Design Sprint, optimisé à l'IA. Son principal objectif est d'aider les organisations à simplifier et concrétiser l'implantation d'une culture d'innovation. Pour ce faire, il prône une approche de gestion de projet en mode agile, centrée sur les utilisateurs, afin d'accélérer le développement de nouveaux produits, services et processus. Bonjour Cédric, je suis très heureux de t'avoir avec nous sur le podcast aujourd'hui. C'est un très, très, très grand plaisir de pouvoir parler de Design Sprint avec toi. Et quand je pense à Design Sprint, je pense à deux personnes. Je pense à Jake Knapp et je pense à toi. Je pense que tu es en très bonne compagnie quand je parle de Jake Knapp. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le Design Sprint? Comment t'en es venu à t'intéresser au Design Sprint? Et du coup, qui est Jake Knapp? Je pense que ça permet de camper, si tu veux, une bonne fondation à notre discussion d'aujourd'hui.
D'un, merci, c'est flatteur, mais il y a plein d'autres Design Sprint Master ici au Québec, mais vraiment, j'apprécie. Sinon, qui est Jake Knapp? Oui, c'est la figure de proue du Design Sprint parce qu'il a écrit le livre Sprint, qui est paru en 2016, qui a fait une petite révolution dans les agences parce que ça l'a structuré l'approche de démarrage de projet en transformation numérique, en gros. C'était utilisé par Google Venture pour valider la désirabilité des solutions des startups qu'il achetait. Et il a mis ça au grand jour, lui, en publiant la recette, finalement, qu'il a itérée chez Google Venture. Voilà. Puis moi, j'ai découvert ça en ligne grâce à un masterclass de AJ and Smart qui m'a appris comment les faire. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment été hooké par la méthode.
Donc, à la lumière de ça, qu'est-ce que c'est le design sprint? Peux-tu nous donner un peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne?
Absolument. En fait, le design sprint, c'est une méthode de conception accélérée qui permet de résoudre des problèmes complexes à travers une série d'ateliers collaboratifs. Ça permet de valider une solution avant son développement coûteux, parce que c'est quand même pas donné d'entamer ça. Puis, comme le dit Jake Knapp, ça permet de voir dans le futur en apprenant comment les utilisateurs réagiraient devant ce qu'ils pensent être une excellente solution, mm-hmm. parce qu'on la teste au bout du processus.
Donc, à la lumière de ce que c'est un design sprint, pourquoi est-ce que c'est important pour une organisation?
Bien, en fait, pour moi, c'est important parce que c'est une façon d'implémenter le design thinking appliqué. C'est une période qui focus sur le démarrage des projets complexes et qui permet de valider l'aboutissement de ces projets-là. Donc, c'est pas juste pour les gestionnaires d'innovation, c'est aussi pour n'importe quel chargé de projet qui a entre les mains un gros projet risqué où il y a plusieurs parties prenantes, et c'est une excellente façon de le démarrer. Ça s'applique pas à tout, on pourra en parler, mais pour les gros projets risqués et complexes, c'est excellent pour le démarrage de ce genre de projet. Dans ce sens-là, c'est important.
Et si je veux approfondir un petit peu quand tu me parles, ça s'applique à différents projets, comme tu dis. Est-ce que c'est juste du UX? Est-ce que c'est, quand on parle d'innovation, est-ce que ça peut être d'innovation produit, d'innovation par des modèles d'affaires? Ça, on va jusque où en tant que tel par le design sprint?
Ça commence par une phase de stratégie où on va définir l'objectif d'affaires principal, l'utilisateur ciblé, ce qu'on cherche à accomplir, en quelque sens, qui est mesurable. Fait qu'on va cadrer le projet. Fait que ça va toucher au modèle d'affaires par le biais d'une solution qu'on va intégrer dans le modèle d'affaires. Ça peut le modifier parce qu'il y a des contraintes qui vont faire qu'on était dans ce type de solution-là, mais justement, on fait un sprint parce que ce qu'on imagine être l'autre solution, elle sort justement du modèle d'affaires. Fait que le processus permet de le redéfinir. Donc, il y en émane de ça un apprentissage qui touche au modèle d'affaires. Mais à la base, c'est pour une solution ou une stratégie qu'on fait un sprint. Parce que ça va pas donner la solution, ça va valider une direction.
OK. Et tu parlais tantôt de la notion collaborative. On parle de 8, 15 personnes? Est-ce que c'est un peu plus grand, un peu plus petit? C'est quoi le nombre idéal de participants à un sprint?
Je dirais 5 à 7 personnes, jusqu'à 8. On a même fait un test avec en intégrant l'AI dans un sprint, puis maintenant je l'exclus, pourrais en reparler plus tard, mais je dirais 7 et 8 maximum, incluant un décideur, c'est super important, et une équipe multidisciplinaire. C'est vraiment important que les 7 à 8 personnes qui soient là aient différents chapeaux et différents points de vue dans le parc.
Et bon, on parle de design sprint, donc plusieurs jours. Peux-tu nous amener et amener les auditeurs à travers le processus? Ça se passe comment? Comment ça se déroule pour qu'on ait un sens un peu plus concret de dire, OK, je commence, je suis à telle étape et je vais sortir de mon design sprint et je suis rendu à un moment eureka. Ça se passe comment, tout ce processus-là, cette démarche-là?
À l'origine, le sprint était 5 jours. 5 jours avec l'équipe au grand complet. 5 jours où tu fais rien d'autre que le sprint. Ça l'a évolué, je l'appelle le 1.0. Okay. Il y a eu le 2.0 qui a réduit ça à 4 jours. 4 jours complets, 2 jours avec l'équipe, une journée proto et une journée de test avec 5 utilisateurs. La 5e, un peu le bilan. Parce que vite, toutes les agences qui l'ont testé, 5 jours, c'est intense. Oui. On peut pas, l'équipe, en termes de capacité, prendre ça sur nous. Il y a eu le 3.0 avec la Design Sprint Academy qui est arrivé avec l'idée de framer en amont avec l'administration et faire un plus petit sprint aussi de 2 jours et on gère le reste. L'agence gère le reste. Fait que de plus en plus, l'idée, ce qui reste au final, c'est qu'on va avoir une demi-journée ou une journée en amont qui est la phase de cadrage stratégique. 2 jours avec l'équipe qui peut être collée, séparée, mais l'idée, c'est qu'on va pas mettre ça sur un mois. On va les coller dans la même semaine ou une semaine après l'autre. Et ensuite de ça, l'agence va prototyper, tester avec des check-ins avec l'équipe. Fait que ça va représenter en 2 et 3 jours d'atelier sur 2 à 3 semaines environ.
OK. Et quand on regarde toute cette démarche-là, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'itérer rapidement. Est-ce que dans ton expérience, les organisations enchaînent des design sprints un après l'autre? Est-ce qu'ils en font plusieurs pour différents chantiers ou différentes opportunités? Comment ça prend forme? C'est dans un écosystème, je peux dire, organisationnel. Est-ce que c'est un événement unique ou ça s'insère dans une démarche un peu plus large?
Très bonne question. on va faire un sprint pour apprendre quelque chose. On va apprendre si on doit ne pas faire cette solution, ne pas la réaliser à moitié ou la développer immédiatement. Okay. L'idée, c'est qu'on apprend après un sprint. Toutes les agences, moi y compris, on suggère de faire au moins un sprint d'itération pour rebondir sur cet apprentissage. Mm-hmm. Donc, c'est un sprint qui équivaut à deux jours d'atelier plus un autre sprint d'itération qui correspond à « Hey, qu'a-t-on appris? Et que va-t-on faire maintenant pour améliorer la solution par rapport à ce qu'on a appris? » Fait qu'au deux, après deux sprints, un premier sprint puis un sprint d'itération, c'est vraiment excellent ce qui ressort. Le premier, des fois, on sort quelque chose là, qui était très difficile à rendre concret. Tout le monde a mis de son mieux pour que ça arrive, mais là, c'est là que les prises de conscience arrivent. C'est quand on a mis ça au monde, concrètement, qu'on a montré ça à des utilisateurs, ils nous en ont parlé. C'est lors souvent de l'itération, du sprint d'itération, que la vraie solution, là, souvent, là, si ça a bien été, on va augmenter le niveau de faisabilité, viabilité, parce qu'on a toujours testé la désirabilité. Oui. Puis là, on va rendre ça plus concret, plus logique à développer.
Et dans ce parcours-là, c'est quoi les conditions de succès qui sont nécessaires? Et ma question est à deux niveaux. La première, par rapport à avoir un design sprint qui apporte de la valeur à l'organisation. Et deuxièmement, comment le design sprint s'insère dans une culture, une stratégie qui permet d'aller chercher le maximum de bénéfices. Donc, c'est peut-être les deux phases que je cherche à essayer de comprendre. Quelles sont les conditions de succès donc qui nous permettent d'aller chercher la pleine valeur d'un design sprint?
Moi aussi, je vais doubler ta première question pour les conditions de succès, les critères de succès, parce que le sprint n'en inclut. Okay. C'est même ça qu'on teste. Là, c'est un clin d'œil à la méthodologie. C'est que dans un sprint, on fait émerger les critères de succès de la solution et c'est ça qu'on teste à la fin. Au final, un prototype qu'on teste, c'est un support à questions pour voir si ce qu'on développerait répond à ces critères de succès-là. Parenthèse. Sinon, les critères de succès d'un sprint dans une organisation, de un, c'est un projet suffisamment complexe et ambitieux pour mériter un design sprint, parce que si on va dire que complexe, c'est un peu de l'inconnu et nous devons consulter les gens ainsi que leur intelligence collective. Quand c'est compliqué, ça va être de l'ordre de l'expertise.
Oui.
Par contre, cette question-là, entre complexe et compliqué, dépend du contexte de chaque organisation. Ce qui est complexe pour une est seulement compliqué pour l'autre. Fait que ça, c'est à déterminer dans la phase de cadrage. Et ça, c'est important parce que c'est pas tous les projets qui méritent un sprint. Fait que c'est la première chose que je valide, c'est que ça mérite un sprint. Suite à, ah oui, il y aura sprint, c'est de bien préparer, inspirer et inspirer l'équipe parce qu'ils vont, c'est un processus qui est intense. Ce n'est pas pour faire des petites séances d'idéation friendly et découvrir des techniques de créativité. C'est qu'on résout un problème en quelques jours avec une équipe qui a ça en tête. Alors, c'est important que les attentes soient bien gérées. Fait qu'il y a tout un processus de dans quoi vous vous embarquez, chère équipe, et quel est votre objectif. Fait que là, ça, c'est important que ce soit bien fait. Et, par exemple, s'ils veulent juste améliorer leur culture d'innovation à l'interne, c'est pas nécessairement un sprint qui va être le meilleur point de départ. Moi, c'est ma phase d'activation avec mes formations sur le design thinking qui mettent le terreau propice à comprendre le sprint. Pour ça, une phase d'orientation stratégique où nous en allons vers là. Et sur le chemin, il y a un gros projet nécessaire, une plateforme X, par exemple. Et là, ça méritera un sprint. Mais la phase de trust the process sur ce qu'est le design thinking et la pensée centrée, le design centré utilisateur, faut l'avoir un peu acquise. Après, on se dit par où on s'en va, puis whoop, pour aller là, ça nous prend telle grande solution et ça méritera un sprint. Fait que c'est du cas par cas, mais c'est là que ça va apporter. C'est que là, quand ils ont un gros projet, soit qu'ils frappent un mur ou ils ont une grande ambition, le sprint devient un moyen de rapidement se rendre à hey, « on y voit plus clair, maintenant on va le développer de manière, je vais dire, agile ou standard. »
Et ça nous donne le contexte organisationnel, ça nous donne le contexte à savoir la place du design sprint dans la grande photo dans le pilotage stratégique de l'organisation, dans les enjeux qu'ils ont, dans la contribution du projet. Mais les gens qui sont autour de la table, on a parlé de collaboration, c'est quoi le profil idéal des gens que tu amènes autour de la table ou que l'entreprise devrait sélectionner pour participer au Design Sprint?
En somme, les personnes autour de la table se doivent de couvrir ce qu'on appelle les trois conditions nécessaires à l'innovation, soit des gens représentant la désirabilité de la solution, des gens au service, au marketing, ceux qui connaissent le client, pratiquement un client, ou en tout cas, des gens qui couvrent cette condition-là. On connaît l'utilisateur, quel qu'il soit. D'autres gens qui vont couvrir la condition de faisabilité technique, c'est-à-dire que si l'équipe s'en va dans une direction totalement absurde, ils seront autour de la table pour lever la main et recadrer l'équipe. Et le décideur et autres personnes qui couvrent la viabilité pour l'organisation, c'est eux qui payent pour le sprint, puis c'est eux qui vont payer pour le développement de la solution. Fait qu'il est important qu'il y ait au moins une personne qui couvre cette condition-là. Et on est dans un moment où on en parle beaucoup, tout ce qui est durabilité. Si on ajoute la condition d'adaptabilité, durabilité, une personne pourrait couvrir cette condition-là en étant assis autour de la table dans le sprint. L'aspect éco serait couvert par une personne dans le sprint.
Donc, clairement, il y a des liens très forts avec le design thinking. J'aimerais que tu me parles un peu des différences design sprint, design thinking, puis peut-être aussi lean startup. Et pour les gens qui nous écoutent, je mettrai en référence une excellente vidéo de Google. C'est un Google Talk, justement, où est-ce qu'on a Jake Knapp, on a Tim Brown d'IDEO et on a Eric Rice de Lean Startup qui nous parle des similitudes et des différences. Mais j'aimerais entendre de ta bouche justement ces principales différences-là, mais peut-être aussi les similitudes qui font en sorte que c'est vraiment intéressant comme approche.
Grande question. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Le design thinking, moi j'ai une approche de charge en mode gestion de projet. On cadre le projet. Mm-hmm. On comprend l'utilisateur, on définit le problème. Il y a l'espace problème à valider avant. Il faut s'assurer qu'on travaille sur la bonne chose. Fait que ça, c'est relatif au design thinking. Ensuite de ça, on a une zone d'opportunité où on imagine des solutions, on en priorise une, on la teste à travers prototest. Tout ce qui touche au design thinking est là, on a validé la désirabilité d'une solution. On est plus sur cet aspect-là d'avoir des solutions innovantes et créatives en s'assurant de comprendre l'utilisateur. C'est en mode empathie utilisateur. On a répondu à ses besoins. On a un segment visé, on a un objectif. Le design thinking, il se situe vraiment en amont et il focus sur une solution désirable. Le Lean Startup, lui, part d'un backlog parce que dans le fond, le design thinking appliqué, soit le design sprint, mène à la priorisation, je dirais, du backlog d'un MVP, mais il n'a pas produit de MVP, de produit minimalement viable. Le Lean Startup, c'est ça qu'il veut faire, mettre sur le marché rapidement un produit minimalement viable et apprendre davantage pour itérer, etc., market fit, pour qu'il y ait une belle adéquation au marché, puis il va apprendre tout le long du processus de développement. Fait que c'est là déjà qu'on peut les mettre bout à bout, et à inclure l'agilité dans le développement ensuite. De mon point de vue, c'est ça. Puis j'essaie de nourrir l'équipe projet qui fonctionnera en mode Lean Startup ou en mode agile avec le sprint, tout dépendant de c'est quoi le sujet et la solution. Mon but, c'est de faire que le chargé de projet fasse « Wow, je n'ai qu'à suivre ce backlog et tout va bien aller. » Pareil.
Est-ce que tu peux partager avec nous un ou deux exemples? Évidemment, je ne veux pas révéler des secrets des secrets industriels ou des cas spécifiques de noms de clients, mais est-ce que tu as la liberté de pouvoir présenter, d'expliquer peut-être un ou deux exemples pour qu'on puisse voir comment ça s'est déroulé puis l'impact que ça a eu auprès de certaines organisations?
Absolument. Il y en a un qui a fait l'objet d'une étude de cas, celui de la factory. Je ne vais pas rien révéler de très important, grave, là, mais l'idée, c'est qu'on travaillait sur un futur nouveau site web avec le mariage à un système produit. Ben, ils avaient un segment qu'on étudiait, qui était les gestionnaires. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes surprises là-dedans. Il fallait un peu arriver à quelque chose d'innovant qui leur convient. Parce qu'ils ont plusieurs enjeux à gérer. Ils cherchent pas juste une chose. Ce qui est sorti dans le sprint, il y a eu toutes sortes d'affaires incroyables qui sont faites. Oh, ils désirent avoir ça. Nous, on offre ça. Et on a une liste de fonctions d'un site qui serait vraiment désiré par les gestionnaires et nécessaire, qui leur apporterait beaucoup de valeur. Bien, ils n'ont pas eu à attendre d'avoir un nouveau site web pour implémenter certains des éléments sur leur site actuel pour immédiatement donner de la valeur sous forme d'MVP à prendre. Et lorsque le futur site va sortir, il y avait déjà de la donnée leur permettant d'avoir quelque chose d'encore mieux. Ça, c'est un exemple d'un vieux site web, nouveau site web. On a appris des choses durant le sprint. Il y a des choses qu'on peut implémenter dès demain. Voilà. Ça, c'est un premier exemple. Je dirais un autre exemple. J'ai fait récemment un sprint sur un parcours d'expérience employé. C'est très populaire en ce moment. Et avec raison, c'était vraiment un sprint intéressant. Et je peux révéler qu'ils ont voulu faire un micro-site interne pour le parcours complet d'un employé. Mais comme le stipule, je dirais, la méthodologie en design thinking, on va choisir qu'un seul segment par parcours pour ne pas se mêler en deux personas, deux parcours utilisateurs, deux moments critiques. On veut vraiment cibler un segment, un type d'employé. Donc, nous l'avons, disons, entamé le projet avec un segment. On a appris énormément. C'est comme si là, on est parti, on ne savait pas trop à quelque chose de concret. Il y a des pour, il y a des contre. Mais pour ce segment-là, on savait ce qui était les pour. Ce qui a permis à développer un MVP de cette plateforme-là, du micro-site, sachant qu'il y a d'autres employés qui, eux, n'ont pas les mêmes besoins, font face à d'autres défis, et ce n'est pas la même chose qu'ils vont rechercher. Mais là, il y aura un autre sprint sur un autre segment qui va venir augmenter, je dirais, le site, qui va venir l'améliorer pour qu'éventuellement, il plaise à tous les segments. Fait que, on démarre tranquillement avec un segment, puis on continue par la suite.
Clairement, une approche incrémentale qui nous permet justement de bâtir au lieu d'attendre la longue solution. Je peux pas m'empêcher de penser au développement des cartes opus à Montréal pour l'accès au métro. Moi, est-ce qu'on nous dit que ça va nous prendre 7 ans avant de payer avec notre téléphone, alors que je pense que partout dans le monde, tout le monde paye avec sa montre ou son téléphone. C'est une autre. J'ouvre une porte que je veux refermer immédiatement, mais clairement, une approche incrémentale serait peut-être un peu plus adéquate pour justement apporter de la valeur rapidement à l'usager.
Peut-être.
Ça ouvre la porte, si tu veux, cette discussion-là, à comment est-ce que cette démarche-là stimule l'innovation? J'aimerais ça camper, parce qu'on en a parlé, tu as mentionné le mot innovation tantôt. Donc, ça joue un rôle dans comme outil ou comme moteur à la démarche d'innovation. J'aimerais peut-être t'entendre là-dessus.
Assurément, ça la stimule parce que ça fait un coup d'éclat dans une organisation. On avait tel enjeu, voici ce que ça donne au final. Il y a un prototype qui a l'air fonctionnel. On a des résultats, des utilisateurs nous ont parlé. C'est de la science, on teste quelque chose. Fait que ça stimule l'innovation. Regardez ce qu'on a fait en si peu de temps. Puis en même temps, pour ceux qui y participent, ça l'explique, puis ça l'enseigne ce que sont les meilleures pratiques en termes de résolution de problèmes puis de développement de solutions innovantes. Mais je fais juste faire un aparté comme quoi c'est un arme de conception massive, je mets des guillemets à arme, dans le sens que ça va vite, c'est intense un sprint. Il y a d'autres approches, par exemple des formations en design thinking qui donnent ça, mais de manière plus moins intense. Mais le sprint, habituellement, c'est un grand coup d'éclat. Fait que dans ce sens-là, ça la stimule parce que tout le monde en entend parler et il y a vraiment une question de diffuser ce que l'organisation fait à l'interne, parce que ça vient puis donner le droit à l'erreur. Ah, nous nous sommes trompés là-dessus, mais là-dessus, on a eu raison. Puis, ah oui, on avait le droit de se tromper là-dessus. Puis là, tu sais, ça, c'est une des grandes postures à avoir en innovation. Fait que ça, c'est un exemple de ce que ça donne, puis on prend soin de l'expliquer. Hey, là-dessus, on s'est complètement gouré, mais là-dessus, on a réussi à trouver quelque chose qui pourra devenir une solution sous peu. Fait que ça donne un cas qui est partageable. Dans ce sens-là, pour moi, ça la stimule. Puis ça donne... certains exercices du sprint peuvent carrément se ramasser à remplacer une réunion. Ah, tel exercice, là, à la place de faire une réunion ou des tours de table, on va faire cet exercice-là à l'avenir. Mm-hmm. Comme ça, on va aller plus vite. Ça. Puis là, on intègre l'idée de facilitation, l'idée d'arriver avec la collaboration, l'intelligence collective. Tout le monde participe, tout le monde est Tout le monde a le goût que ça arrive parce qu'ils en ont participé, puis c'est un peu leur solution. Fait qu'il y a de la synergie d'un projet, etc., etc.
La façon que tu en parles, ça m'amène à penser, je reviens un peu sur la notion des conditions de succès. Clairement, quand tu parles de posture, est-ce que par défaut, il faut déjà avoir une posture qui est d'ouverture, très axée sur le droit, comme tu as mentionné, le droit à l'erreur, très axée sur aller chercher les idées des différentes parties prenantes, par opposition à une entreprise qui serait peut-être un peu plus classique, un peu plus hiérarchisée, où est-ce qu'il y a vraiment des rôles, la haute direction pense X, on exécute dans le reste de l'organisation. Est-ce que ça s'applique aussi dans ce contexte-là où, à quelque part, on n'a pas les conditions de succès qui nous permettent d'avancer positivement dans un design sprint si on est dans mon deuxième exemple organisationnel, si je peux dire?
Ça dépend. Le fameux « ça dépend ». Il y a un point de départ, il y a une maturité, hein, il y a des graphiques, il y a des chartes qu'on peut dire, votre maturité UX, là, où est-ce que l'entreprise est rendue? En agilité, il y a des grilles de maturité, en UX, il y a des grilles de maturité. Il pourrait y avoir la même chose en l'approche, le design centré utilisateur. À quel point une majorité en est consciente que c'est payant de l'être? Par exemple, IBM a fait une grande révolution là-dessus et pour eux, ça a été payant de l'être. Fait que là, le sprint, s'il arrive comme un cheveu sur la soupe et qu'il bouscule, il peut décevoir ou il peut dire « je m'attendais pas à faire des séances d'idéation en étant ensemble mais seul, je pensais qu'on allait juste discuter ». Mais non, il y avait un processus très, entre guillemets, strict, plaisant mais strict. Et là, ça peut bousculer, puis on veut pas que ça ait l'effet inverse. Fait que c'est pour ça que je privilégie une approche par étape ou une formation en design thinking à un nombre X de personnes. Ensuite, il y aura peut-être un design sprint sur ce qui est ressorti comme étant un enjeu important, puis que la direction demande aux gens, hey, selon vous, c'est quoi, sur quoi on devrait travailler, et qu'eux sortent un projet. Souvent, ça va être très pertinent ce qui va sortir. Là. Fait que c'est de l'écoute de la direction pour rendre ça bottom-up, puis je veux dire, ça a un effet. Il faut juste que que le terreau soit prêt à recevoir ce design sprint.
Et tantôt, tu as ouvert une porte sur l'intelligence artificielle qui était peut-être ton 8e participant ou ton 9e participant à tes sprints. Peux-tu m'en parler un peu plus, nous en parler sur les avantages ou les inconvénients, la valeur ajoutée ou la difficulté de l'intégrer dans ta démarche un peu? Quelle a été ton expérience justement par rapport à ça?
C'est merci de poser la question. C'est le sujet de l'heure et mon sujet de l'heure, dans le sens que j'y donne beaucoup d'amour. Mes trois derniers sprints étaient, je vais dire, optimisés, augmentés à l'AI. Le premier, encore là, étude de cas, factory, vous pouvez retrouver ça. On a remplacé un participant par l'AI, ce que je ne ferai plus parce que j'ai appris. C'était un test. Je ne remplacerai plus de participants avec l'AI parce que l'AI a comme volé la place à du contexte propre à un être humain qui aurait eu plein de choses à donner parce qu'il se révèle que l'AI a sa pertinence, je dirais, en convergence. Quand on collecte les données, on veut le contexte d'entreprise, on veut des points de vue d'humain. C'est très important que ça vienne de l'organisation. Ceux qui disent qu'on va être remplacé, et non, l'AI ne se promène pas dans les corridors de votre organisation, il ne connaît pas tout. C'est eux, c'est les gens qui participent, qui connaissent l'organisation et ses vrais enjeux. Donc, on veut ça dans un sprint. Par contre, un outil incroyable pour toutes les phases de convergence où on va synthétiser, simplifier, définir une très grande quantité d'informations. Tout a été amélioré dans le sprint grâce à l'AI. La phase de cadrage en amont peut être réduite à un sondage, un Google Form où on réduit, on synthétise avec l'AI et ensuite on valide avec toutes les parties prenantes. Personnellement, j'ai beaucoup modifié mon approche avec le design sprint. Mon but, c'était de sauver du temps et de rendre ça plus le fun. Donc, plusieurs exercices, puis ça s'est fait pas à pas, là, je l'ai pas fait du premier coup parce que moi aussi, je n'osais pas, il y avait de faire confiance à la machine et que on veut pas enlever aux participants le plaisir d'avoir conçu quelque chose par un AI qui le fait à leur place. Sinon, on enlèverait un des grands bénéfices qu'apporte le sprint. Une équipe fière d'une solution qu'ils ont trouvée, mais il y a certains moments où ils ont écrit 3 pages de texte, puis il faut en faire un paragraphe pour que tout le monde s'aligne. Je vais-tu leur demander de me passer 1 heure à faire un exercice de synthèse alors que je peux faire corriger ce que l'AI a fait en 1 minute devant eux? Puis l'heure, je l'ai amené à pousser ça plus loin. Donc, c'est de l'évidence même. Mais, sur le coup, on ne savait pas où le plugger, l'arrimer aux exercices où c'est l'être humain qu'on privilégie. Voilà, c'est là que je me suis rendu.
Très intéressant. C'est là qu'on voit que, dans ce cas-là, c'est le test and learn, comme tu parlais tantôt, on l'applique, on essaie de voir la meilleure place où avoir cette valeur ajoutée. Et je trouve ça très intéressant, ton commentaire, par rapport à la notion que l'AI, du moins aujourd'hui, ne permet pas encore d'avoir cette vision expansive et les différents liens qui peuvent exister, que ce soit des liens directs, informels ou des liens de causalité qui peuvent être explorés par justement les individus. On n'est pas encore rendu tout à fait là. Et effectivement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, surtout dans une perspective que les gens vont devoir mettre en œuvre la solution, les faire participer à un impact encore plus grand dans la mesure que c'est leur solution par opposition à une solution générée par un robot, si je peux le dire de cette façon-là, le buy-in n'est pas tout à fait le même nécessairement. Donc, je pense que tes observations tombent vraiment à point dans le stade d'évolution où est-ce qu'on en est présentement, puis surtout de se doter d'une perspective, de dire ben, c'est quoi le rôle que l'IA peut nous apporter et c'est quoi la meilleure place où est-ce qu'on maximise sa valeur. Je trouve ça génial comme explication et comme raisonnement là, suite à l'expérience que tu as eue. Quand on regarde tout ce qu'on parle jusqu'à maintenant, quand on parle de design sprint, quand on parle de l'impact au niveau de l'organisation, au niveau des équipes, c'est quoi ton souhait pour les organisations qui n'utilisent pas encore cette approche?
Mon souhait, c'est qu'ils tombent sur une des multitudes d'études qui montrent que appliquer la pensée design centrée utilisateur est payante. Premièrement, pour juste regarder, c'est quantifié. Ça, Donc, ça mériterait qu'on intègre une culture d'innovation de design centré utilisateur. Fait que là, ça, c'est un premier pas, c'est qu'ils veulent des preuves avant d'y mettre l'énergie. Ensuite, je dirais se former, par exemple, par un cours de design thinking 101. ensuite de ça, voir là où, exemple, là, en ce moment, les gens vont penser à sauver des coûts. Hein? Ils vont dire où est-ce qu'on peut sauver et intégrer les AI. C'est des questions auxquelles leur équipe peut répondre à travers des ateliers collaboratifs et une approche centrée utilisateur pour que la valeur, puisque la valeur se déplace, avant quelqu'un faisait une tâche répétitive qui avait de la valeur, maintenant elle n'est plus là, la valeur. Fait que ça, c'est l'équipe qui va le dire à l'interne, parce que le design thinking s'applique aussi avec une pensée centrée employé, hein, pas juste utilisateur externe client. Elle est partout. Fait qu'il y a ça, qu'ils comprennent à quel point leur personne, leur employé valent cher, que leur utilisateur n'ont plus les mêmes besoins parce que le marché change. Donc, les écouter davantage et se dire qu'il existe des approches qui permettent de structurer cette écoute et les mêmes 60 minutes d'une réunion peuvent être complètement modifiés à travers une approche centrée utilisateur et des ateliers collaboratifs plutôt que juste en parler. Il y a des meilleures pratiques qui existent en facilitation qui amènent ce framework-là, ce cadre-là. Donc, s'en informer et commencer à petits pas avec un certain département, observer ce qui émerge, puis après ça, l'intégrer à d'autres départements. Ça se fait à petits pas, mais je dirais que la solution, on parle de design sprint, c'était pas nécessairement de partir avec un design sprint. Je dirais que ça mène à ça. Ça mène à ça pour, là, ils vont se dire, maintenant que je fais confiance à ce processus, le gros projet qui s'en vient, j'entamerai ça à travers un design sprint. Mais pas au départ. Commencez à petits pas avec la formation, des grands nombres, faites-le circuler. Puis mes formations, moi, c'est avec des enjeux réels parce que il faut que ça les touche, il faut que ça leur parle, pas juste, des grands enjeux, qui parlent à tout le monde. On peut le faire avec leurs enjeux, puis ça donne des résultats étonnants.
Excellent. Cédric, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur le Design Sprint. Ça m'amène à plein d'autres questions que j'aimerais te poser, mais je vais les garder pour une prochaine fois. Merci beaucoup d'être venu avec nous. C'est très généreux. Merci beaucoup d'être là avec nous.
Merci, Eric. Et pour moi, c'est un honneur, puisque je vous suis depuis le début. Continuez comme ça, c'est incroyable ce que vous nous transmettez comme information. Longue vie au podcast.
Merci à toi, c'est super gentil. À bientôt. De cette rencontre avec Cédric Martineau, je retiens les trois points suivants. D'abord, la polyvalence et l'efficacité du design sprint dans divers contextes organisationnels. Cette méthode ne se limite pas à l'innovation de produits ou simplement l'UX. Elle s'étend aussi à la transformation numérique et au modèle d'affaires. Le design sprint se révèle être un outil fort intéressant pour accélérer et concrétiser les projets complexes, permettant aux entreprises de toute taille d'innover rapidement et efficacement. Ensuite, que le succès du design sprint repose largement sur la composition et la collaboration de l'équipe. Un groupe diversifié, comprenant un décideur et des membres aux compétences variées, est essentiel pour générer des perspectives riches et des solutions innovantes. Cette approche collaborative encourage non seulement la créativité, mais renforce également l'engagement de l'équipe envers le projet, augmentant bien sûr les chances de succès. Enfin, le design sprint est une méthode en constante évolution. L'intégration de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et l'adaptation des durées et formats de sprint montrent sa capacité à s'adapter aux besoins changeants des entreprises. De plus, l'approche itérative du design sprint où l'apprentissage et l'adaptation sont continus offre bien sûr une flexibilité super intéressante dans la gestion et le développement des projets. En résumé, ces trois apprentissages clés soulignent l'importance et la pertinence du design sprint dans le paysage actuel des affaires, faisant de cette méthodologie un outil indispensable pour toute organisation cherchant à rester compétitive et innovante. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes au www.inteliaconsulting.com/épisode 143. Et en terminant, on vous invite à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où à chaque semaine, on approfondit les différents thèmes du podcast afin de développer votre impact stratégique et bien sûr la croissance profitable de votre organisation. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.